À l'écoute de RFI, 20h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Simon Bourtembourg.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, eh bien l'appel à la mobilisation, appel lancé par Emmanuel Macron en ouverture de la conférence de l'ONU sur les océans.
Plus de 60 dirigeants mondiaux sont réunis pour une semaine à Nice, sur la Côte d'Azur en France. La conférence doit déboucher sur des engagements concrets. Il sera aussi question du traité de protection de la haute mer. L'ONU appelle à la désescalade après 3 jours de heurts à Los Angeles aux États-Unis. Les manifestations contre la politique migratoires américaines se poursuivent en Californie. Donald Trump est accusé d'attiser le feu en déployant la garde nationale. Le président américain se félicite, lui, d'une excellente décision. Sous la pression des États-Unis, le chef de l'OTAN appelle les pays alliés à augmenter leurs dépenses militaires pour se protéger de la Russie. Nous entendrons dans cette édition le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Et nous reviendrons également sur le rassemblement de l'extrême droite européenne autour de Marine Le Pen en France. Et puis les JO 2024 ont rapporté 3 fois plus que prévu. Une bonne nouvelle pour le sport français qui va largement profiter de ses bénéfices.
Et donc Emmanuel Macron à l'offensive pour la protection des océans.
Le président français a appelé à la mobilisation en ouverture de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. L'événement a lieu à Nice toute cette semaine. Plus de 60 chefs d'État et de gouvernement sont présents pour l'occasion dans le sud de la France. Un auditoire de marque qu'Emmanuel Macron a invité à ratifier le traité sur la haute mer. Le texte, signé en 2023, sera ratifié par suffisamment de pays pour entrer en vigueur. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le chef de l'État. Pour en parler, Lucille Gimbert, bonsoir.
Bonsoir.
Ce texte, c'était un objectif que s'était fixé Emmanuel Macron. Il est maintenant partiellement rempli.
Oui, la France voulait pouvoir brandir au moment d'accueillir ce rendez-vous mondial sur l'océan la ratification des 60 pays nécessaires pour enclencher cette mise en œuvre de ce traité international pour protéger la vie marine en haute mer. Les signatures ne sont pas toutes couchées sur le papier, mais à Nice, le président français l'a assuré, le compte y est.
Nous nous sommes fortement mobilisés. Et je peux vous dire qu'à la 50aine de ratifications déjà déposées, ici même ces dernières heures, 15 pays se sont formellement engagés à les rejoindre. Ce qui fait que l'accord politique est obtenu. Ce traité sur la haute mer sera bien mis en œuvre. C'est donc gagné.
Les ONG environnementales attendent de voir pour le croire, mais si ces ratifications se confirment, eh bien c'est un moment important pour la protection des océans, a réagi Greenpeace. La haute mer, c'est 64% de l'océan, avec pour le moment très peu de zones protégées. L'idée de ce traité international, c'est d'établir dans ces eaux, qui n'appartiennent à personne et sont à tout le monde à la fois, des aires marines protégées et d'y réguler toute activité qui pourrait avoir un impact négatif sur les animaux, les plantes, les micro-organismes qui y vivent. L'océan, on le rappelle, est à la base de l'équilibre climatique de la Terre, à la base de notre santé, de notre alimentation.
Autre sujet au cœur de cette conférence de l'ONU sur l'océan, ce sont les grands fonds marins.
Oui, à la tribune, plusieurs chefs d'État ont fustigé l'absence à Nice des États-Unis, pays qui a le plus grand espace maritime au monde, et dénoncé l'attitude de Donald Trump. Donald Trump qui, au mépris du droit international, a accéléré la délivrance de permis d'extraction minière dans ces grands fonds marins, des zones pourtant méconnues et dont la dégradation pourrait avoir de graves conséquences, d'après les scientifiques. Écoutez Lula, le président brésilien.
La menace de l'unilatéralisme plane sur l'océan. Nous ne pouvons pas permettre qu'il arrive à la mer ce qui est arrivé au commerce international, où les règles ont été érodées au point de rendre l'OMC inopérante.
Beaucoup de pays d'Amérique latine, mais aussi du Pacifique, sont à Nice pour les îles du Pacifique, pour ces peuples de l'océan. Préserver le grand bleu de la surpêche, de la population, de la pollution plastique et des effets du réchauffement climatique, c'est tout simplement une question de survie.
Lucille Gimbert, merci beaucoup.
Et la surpêche, justement, on l'évoquera après ce grand journal du soir. Autre grand titre ce soir, Simon Bourtembourg, aux États-Unis, Los Angeles, qui se réveille après une 3e nuit de heurts.
Depuis vendredi, des manifestations agitent la Californie contre la politique migratoire de Donald Trump, le président américain, qui a en réponse déployé 2000 membres de la garde nationale contre l'avis des autorités démocrates. Une utilisation de l'armée que le gouverneur de Californie qualifie d'illégale. Rien que ce dimanche, une 60aine de personnes ont été arrêtées à Los Angeles, selon la police locale. Bonsoir Nicolas Rocca.
Bonsoir.
Alors que l'ONU appelle ce soir à la désescalade, d'autres manifestations sont prévues ce lundi.
Oui, New York, Chicago, Washington, dans une dizaine de villes à travers le pays, surtout des municipalités démocrates, de nombreux Américains pourraient encore se déplacer pour dénoncer les raids d'ICE, l'agence chargée d'appliquer la politique migratoire violente de Donald Trump, qui estime que le pays est envahi de criminels étrangers. À Sacramento, un rassemblement est prévu pour dénoncer l'arrestation d'un dirigeant syndical vendredi. Vendredi dernier, en tout, les autorités affirment que 150 personnes ont été arrêtées dans les manifestations à Los Angeles. D'autres rassemblements sont prévus dans les prochaines heures. Vitres brisées, restes de balles en caoutchouc. Les images sur les réseaux sociaux montrent que la ville porte encore les stigmates des affrontements de ces derniers jours. La police, elle, reste très présente dans les rues et a interdit tout rassemblement en centre-ville.
Et ces événements ainsi que les images impressionnantes des heures et de la répression, ça fait réagir.
Oui, notamment la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, alors que des ressortissants mexicains ont été arrêtés au cours des récentes opérations.
En este sentido, hacemos un llamado respetuoso.
À cet égard, nous lançons un appel respectueux mais ferme aux autorités américaines pour qu'elles veillent à ce que toutes les procédures d'immigration se déroulent conformément à la loi dans un cadre qui respecte la dignité humaine et l'état de droit.
Elle a également condamné les violences du côté des forces de l'ordre comme des manifestants, alors que le déploiement de l'armée sans concertation des autorités démocrates fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis. Donald Trump, vous l'avez dit, lui, persiste et signe, il parle d'une excellente décision.
Nicolas Roca du service international de RFI. RFI 20h06 ici à Paris. On vient de l'apprendre, le voilier Madeleine arraisonné par Israël est arrivé au port d'Ashdod. Il a été photographié par des journalistes de l'agence France Presse. Le navire humanitaire avait été intercepté la nuit dernière par Israël. Il faisait cap sur les côtes gazaouis pour, je cite, rompre le blocus israélien. À Paris demande toujours à pouvoir exercer la protection consulaire à l'égard de 6 ressortissants français qui étaient à bord du voilier, parmi eux l'eurodéputée Rima Hassan. La militante Greta Thunberg faisait aussi partie de l'expédition qui est partie d'Italie. L'ONG Freedom Flotilla, qui affrète le navire, dénonce une violation manifeste des lois internationales. On ne sait pas encore le nombre de soldats concernés, mais un nouvel échange de prisonniers a débuté entre Kiev et Moscou. L'opération doit se poursuivre ces prochains jours, alors que les négociations de paix sont dans l'impasse. Voilà une illustration des rares bénéfices des récents pourparlers entre Ukrainiens et Russes. Il y a une semaine, à Istanbul, l'Ukraine et la Russie avaient convenu de libérer tous les prisonniers de guerre grièvement blessés, et ceux âgés de moins de 25 ans.
Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir sur Radio France Internationale avec Simon Bourtembourg. Simon, les pays de l'OTAN sont invités à investir plus dans la défense pour protéger l'Europe de la Russie.
C'est au tour de Mark Rutte d'appeler les pays de l'Alliance Atlantique à augmenter progressivement à 5% le PIB de leurs dépenses militaires. Après Paris, la semaine dernière, le chef de l'OTAN était à Londres aujourd'hui, et avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, il a été question de la pression des États-Unis sur les objectifs de dépenses militaires de l'Alliance. Washington souhaite davantage d'efforts de la part des Européens, sous peine de ne plus garantir leur sécurité. Un rééquilibrage est nécessaire, admet Mark Rutte.
Le président Poutine n'agit pas comme quelqu'un qui est intéressé par la paix. La Russie continue de cibler les civils en Ukraine jour après jour, nuit après nuit. C'est de la violence pour la violence. Nous soutenons pleinement les efforts du président Trump pour arrêter ce bain de sang. La population ukrainienne mérite d'obtenir une paix juste et durable. Les soutiens pratiques et politiques de l'OTAN à l'Ukraine continuent. Notre soutien sur le long terme n'est pas un soutien pour continuer la guerre. Il s'agit d'aider l'Ukraine à se défendre aujourd'hui et prévenir toute agression future. L'OTAN est avec l'Ukraine aujourd'hui et pour les défis à venir.
Marc Rutte, alors que le Canada annonce aujourd'hui rentrer dans le rang, 2% du PIB canadien sera bien consacré à la défense cette année. Un premier pas vers les 5% pour lesquels Ottawa va donc procéder à sa plus forte augmentation des dépenses de défense depuis la Seconde Guerre mondiale. À la trêve commerciale est fragile. Les États-Unis et la Chine ont débuté lundi à Londres une nouvelle série de négociations dans le plus grand secret. Une rencontre entre les deux premières puissances économiques mondiales un mois après la précédente, c'était à Genève. En Suisse, Pékin et Washington avaient convenu d'abaisser considérablement leurs droits de douane respectifs pour 90 jours. Ce nouveau cycle de négociations intervient après un échange téléphonique jeudi dernier entre le président américain et chinois, une conversation qualifiée de très positive par Donald Trump. Au Brésil, Jair Bolsonaro devant la justice pour une tentative de coup d'État. C'était en janvier 2023. Son interrogatoire vient de commencer ce lundi. L'ancien président brésilien comparaît donc devant la Cour suprême. Jair Bolsonaro est directement accusé d'une tentative de coup d'État en 2023. Des milliers de sympathisants bolsonaristes avaient pris d'assaut et saccagé le palais présidentiel, le Parlement et la Cour suprême pour dénoncer des fraudes électorales. En cas de condamnation, l'ex-dirigeant brésilien d'extrême droite encourt une lourde peine de prison.
Alors, l'extrême droite, justement, européenne, était réunie en France aujourd'hui dans un petit village du Loiret.
Un Mormant-sur-Vernisson, un village de moins de 150 habitants. C'est là pourtant que des milliers de personnes étaient réunies ce lundi pour écouter notamment le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, ou encore l'Italien, Matteo Salvini. Les grands leaders européens d'extrême droite invités par le Rassemblement national un an après son succès aux européennes en France. L'occasion pour Marine Le Pen de s'assurer d'un soutien de dirigeants étrangers au moment, Raphaël Delvolvé, où elle est dans une mauvaise passe après sa condamnation judiciaire.
Chaque jour qui passe et un jour de moins avant que Marine Le Pen devienne présidente de la République.
L'Espagnol Santiago Abascal, le chef de Vox, y croit et Marine Le Pen est toujours candidate. Elle parle en tout cas comme telle quand elle fustige l'Union européenne.
C'est un empire marchand, wokiste, ultralibéral. C'est un empire contre nos nations.
Bruxelles, source de tous les maux, y compris les siens.
Voyez ce qui s'est passé en Roumanie, les persécutions judiciaires partout. Regardez ce qui se passe en France, où l'on veut interdire à la principale opposante que je suis de se présenter à l'élection présidentielle.
Il y a un an, les européennes furent triomphantes pour l'extrême droite, mais la suite délicate. Défaite aux législatives anticipées, condamnation à de l'inéligibilité, concurrence du ministre Bruno Retailleau dans les sondages. L'europhobie décomplexée permet de rester présidentiable et assure le soutien de dirigeants étrangers. Le premier ministre hongrois Viktor Orban est dithyrambique.
Marine est une personne formidable, une combattante courageuse. La France doit être vraiment très riche pour se permettre ce luxe de ne pas l'avoir comme présidente.
La situation est loin d'être morose, se rassure un élu RN à la fin du meeting. Ou comment, avec l'ennemi Union européenne, se donner une stature et de l'espoir pour un avenir incertain.
Voilà, Raphaël Delvolvé depuis le Loiret au sud de Paris. Cette bonne nouvelle à présent, Simon Bourtambeau, pour le sport français.
Dernier tour de piste pour le patron de Paris 2024. Tony Estanguet revoit à la hausse l'excédent de son budget pour l'organisation des JO. Le bénéfice de l'organisation des Jeux Olympiques avait été estimé à 28 millions d'euros en décembre dernier. Finalement, ces JO 2024, ils ont rapporté trois fois plus que prévu, Solène Ravenel.
À quelques jours de la clôture des comptes du comité d'organisation, celui-ci a revu à la hausse son bénéfice. Tony Estanguet, président du COJO, a donc annoncé un excédent budgétaire de 76 millions d'euros, presque trois fois plus élevé que le montant de 26 millions avancé en décembre dernier. Il s'agit principalement de revenus privés, issus de la billetterie, des sponsors et des droits médias reversés par le comité international olympique. Cette annonce est une bonne nouvelle pour Paris 2024, d'abord parce que les comités d'organisation dégagent rarement des bénéfices. La dernière fois, c'était lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, avec un bénéfice de 36 millions d'euros. Mais aussi parce que c'est de l'argent qui va au sport français, explique Tony Estanguet, puisque 80% de ce bénéfice sera reversé pour financer les athlètes et les projets sportifs en France, notamment ceux lancés par Paris 2024, comme la journée paralympique ou l'apprentissage de la natation pour tous. Par ailleurs, plus de 15 millions d'euros seront reversés au Comité national olympique, une manne bienvenue alors qu'après les Jeux, le ministère a largement coupé les subventions publiques versées à l'instance.
Solène Ravenel et à suivre le journal des sports de Sofiane Amazian. Enfin, promener son chien dans la rue est désormais interdit dans une vingtaine de villes en Iran.
Officiellement, les autorités iraniennes avancent des raisons d'hygiène, de sécurité et d'ordre public. Des poursuites judiciaires contre les contrevenants sont même prévues. Explication avec Siavosh Ghazi.
Des villes comme Isfahan, Hamedan, mais aussi Kerman, dans le sud du pays, ont interdit aux habitants de promener leurs chiens dans les lieux publics, notamment les parcs, ou encore en voiture. Des poursuites judiciaires et des amendes peuvent être décidées contre les contrevenants. La raison officielle est que de plus en plus de gens promènent leurs chiens dans des parcs, notamment des aires de jeux pour enfants. Les médias officiels ont dénoncé les propriétaires en affirmant que cela mettait en danger la santé des enfants. Une vidéo a également été publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit une cérémonie d'enterrement organisée par une femme qui pleure la mort de son chien. de plus en plus iraniens possèdent des chiens ou encore des chats. Le chien est considéré comme impur selon les musulmans, mais on peut en posséder comme un animal de garde, notamment pour les troupeaux ou encore les villas. Toutefois, aucune loi n'interdit d'avoir un chien. Certains responsables politiques et religieux y voient cependant un symbole de l'influence occidentale. Néanmoins, une campagne a été lancée sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces interdictions. Siavosh Kiazi, Téhéran RFI.
À Téhéran, où se referme ce journal tout de suite, la suite d'RFI Soir.
Merci Simon Bourtembourg pour ce grand journal du soir sur RFI.
RFI Soir, Romain Ozoui.
RFI qui est mobilisé à l'occasion de l'ouverture de la conférence mondiale des océans. Dans les prochaines minutes, on va évoquer, c'est un enjeu crucial, hein, la surpêche. Pensez donc qu'elle constitue la première cause de perte de la biodiversité. Et puis cette initiative qui existait avant le début de la guerre à Gaza, mais depuis le 8 octobre 2023, eh bien les audiences ont été multipliées par 6. Reportage à suivre auprès du site d'information Plus 972 qui mêle une vingtaine de journalistes israéliens et palestiniens. Mais pour l'heure, voici les sports. Sofiane Amazian, bonsoir.
Bonsoir Romain, bonsoir
à tous.
Bonne
soirée. Mais d'abord, on va parler sport.
Oui, avant de se dire au revoir, on parle sport.
Exactement. On commence par le début, le foot. Les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 en zone Europe, ils se poursuivent aujourd'hui et au programme notamment l'Italie qui se frotte à la Moldavie.
Oui, pour la dernière sur son banc de Luciano Spalletti après la déroute de la Nazionale il y a quelques jours en Norvège. 3-0, l'entraîneur italien a été remercié après une vingtaine de matchs seulement sans réussir à relancer pleinement une sélection pourtant championne d'Europe en 2021. Mais privé de participation à la Coupe du Monde depuis 2014. Spalletti reconnaît son échec mais espère quand même terminer sur une bonne note.
Io non avevo nessuna intenzione di mollare.
Je n'ai jamais voulu abandonner, surtout quand ça ne va pas. J'aurais préféré continuer mon travail. J'aime ce maillot, j'aime ce boulot. Et j'aime tous les joueurs que j'ai pu diriger. Contre la Moldavie, je vais leur demander de montrer enfin ce que j'ai toujours attendu d'eux, ce que j'ai toujours vu en eux, mais que malheureusement, je n'ai pas été capable de faire ressortir. J'ai vu beaucoup de joueurs en dessous de leur vrai potentiel.
Perché ho visto molti calciatori sottotono per quelle che sono le loro possibilità.
Et l'Italie seulement quatrième du groupe I face à la Moldavie. Coup d'envoi 18h45 temps universel. Dans le même temps, la Norvège leader affrontera l'Estonie.
Également en foot, l'Inter Milan qui mise sur un ancien joueur au poste d'entraîneur principal.
Et c'est l'ancien international roumain Cristian Chivu qui est le nouvel entraîneur de l'Inter Milan en remplacement de Simone Inzaghi parti en Arabie Saoudite. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le vice-champion d'Europe 2025. L'Inter Milan souhaite la bienvenue à Cristian Chivu, nouvel entraîneur de son équipe, première à indiquer le club lombard dans un communiqué. Chivu, ancien joueur de l'Inter Milan, a une expérience d'entraîneur de Serie A, certes limitée, à seulement 13 matchs avec Parme cette saison.
Allez, le tennis et après Roland-Garros, évidemment, les classements mondiaux masculins et féminins qui ont été ce lundi actualisés. Et la sensation Loïse Boisson, bah, comme prévu, elle fait un énorme bond au classement.
Ouais, presque 300 places, la voilà 65e au classement WTA, évidemment le meilleur de sa carrière, ce qui lui permet de devenir la numéro 1 française. Le classement est toujours dominé chez les femmes par la Biélorusse Arina Sabalenka, première juste devant la vainqueur de Roland-Garros, l'américaine Coco Gauff, sa compatriote Jessica Pegula. Et troisième, côté messieurs, le trio de tête n'a pas changé malgré la victoire hier de l'espagnol Carlos Alcaraz. L'italien Yannick Sinner est toujours le numéro 1 devant donc Alcaraz. Alexander Zverev ferme la marche. Le premier français, Arthur Fils, est quant à lui 14e au classement ATP.
Enfin du basket et au classement Oklahoma City qui égalise dans le cadre des finales NBA face à Indiana.
Oui, c'est une finale qui reste indécise après le deuxième match disputé dans la nuit de dimanche à lundi du côté d'Oklahoma City, surpris à domicile lors du match 1 par des Pacers, renversant le Thunder du MVP Shai Gilgeous-Alexander. Se sont bien repris pour recoller à un partout, victoire nette 123-107 et 34 points pour le meneur canadien. SGA a pris ses responsabilités après le match. Le joueur de 26 ans a balayé les doutes issus de la défaite du premier match.
Every game's a reset. À chaque match, on repart à zéro. Surtout à ce moment de la saison, on a eu des séries où on perdait un match, puis on remportait le suivant de 40 points. D'autres où on en gagnait deux de suite, puis on perdait le troisième largement. Le basket te rappelle que chaque match remet les compteurs à zéro et ça rend humble. Ça montre que si tu ne restes pas concentré, si tu ne viens pas en étant prêt, peu importe qui tu es ou ce que tu as fait, tu peux être battu, et sévèrement battu. On a appris ces leçons, donc on est prêt à aller de l'avant.
Et le troisième match, ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi.
Et comme vous êtes un octambule, vous serez à l'écoute.
Oui.
Merci beaucoup Sofiane Amazian, 20h19 ici à Paris. Et à Nice, ils couvrent 70% du monde et sont au cœur d'une conférence aux enjeux colossaux, l'avenir des océans et avec lui celui de la planète. Et donc évoqué depuis ce lundi dans le sud-est de la France, autour du président français Emmanuel Macron, sont réunis plus de 60 dirigeants internationaux. Et une première prise de parole qui a été remarquée, c'était celle du secrétaire général de l'ONU, qui a dit « les grands fonds ne peuvent pas devenir un Far West ». C'est ce qu'a déclaré Antonio Guterres. Cette question de parvenir à des accords, c'est l'un des enjeux pour demain, notamment sur la question de la surpêche. Alors la surpêche, c'est un thème très important qui a été évoqué à la mi-journée sur RFI lors d'une de nos éditions spéciales consacrées à cet événement. Je vous propose d'en écouter un extrait avec François Chartier, qui est chargé de campagne océan à l'ONG Greenpeace France et qui est interrogé depuis Nice par Anne Cantner.
La surpêche, en fait, c'est la principale cause de perte de biodiversité, d'effondrement des stocks. C'est du fait de la surpêche qu'on a aujourd'hui une situation alarmante, notamment pour tous les grands prédateurs, des formes de thon, les espèces de requins sont aussi très menacées. Bah, un chiffre pour l'illustrer, aujourd'hui vous avez 1% des navires qui pêchent 50% du poisson. Donc la principale cause de la surpêche, c'est l'industrialisation, c'est les activités des pêches de flottes industrielles, européennes comme l'Espagne, la France ou asiatiques, et c'est des techniques de pêche destructrices comme le chalutage de fond, qui en France est pratiqué dans les aires marines protégées. Et après, c'est tous les problèmes de gestion des quotas. Et ce qui est dit dans le son, c'est également un problème de pêche illégale et de contrôle. Mais le problème de la surpêche est avant tout un problème de surpêche légale.
De la pêche légale industrielle, vous nous le disiez. Est-ce que tout le monde a les mêmes pratiques, les navires européens comme les navires asiatiques? Vous avez évoqué notamment ces deux zones de la planète.
Les pratiques de pêche sont très différentes. Donc, la très 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 grande majorité des pêcheurs dans le monde, ce sont des pêcheurs artisans qui pêchent pour leur subsistance, et c'est pas eux qui posent massivement le problème, et c'est en revanche un vrai enjeu de sécurité alimentaire. Ce qu'on a vu ces dernières années, c'est à la fois une concentration des acteurs, un peu dans un modèle capitaliste hyper concentré, et puis le développement de technologies de pointe, sonar, etc. Donc c'est une industrialisation avec des navires qui font jusqu'à 140 mètres. Ça peut être des chalutiers, donc ils vont pêcher plutôt dans la colonne d'eau, notamment des petits pélagiques, mais c'est d'autres techniques. On a une pêche industrielle où la France est un acteur important sur le thon tropical, qui pose un certain nombre de problèmes. Donc c'est cette industrialisation de l'ensemble de la chaîne de valeur en fait du poisson qui a aggravé en 30 ans et amené à l'effondrement certaines ressources.
Quand on dit aire protégée, ça veut dire quoi, François Chartier ?
C'est un vrai problème et c'est un vrai débat comme on a pu le constater en France, parce que là on est en désaccord fortement avec le gouvernement, autant sur les sujets internationaux de gouvernance, on va y revenir j'imagine, le traité sur la haute mer ou l'extraction minière, on a des objectifs communs. Sur les aires marines protégées, en fait c'est normalement un espace délimité dans lequel les activités humaines sont limitées voire interdites afin de pouvoir protéger la biodiversité. Nous en France on a des aires marines protégées qui globalement ne protège pas, puisqu'on a 0,003% d'aires marines protégées en hexagone qui protège vraiment. Donc l'enjeu en France, c'est pas tellement un enjeu de surface, quelle surface est-ce qu'on a atteint 30% ou plus, c'est un enjeu de qualité plus que de quantité.
La question reste entière. Vous avez mentionné ce terme de limiter, c'est ce qu'Emmanuel Macron a utilisé ce week-end, il a fait des annonces à ce sujet. C'est pareil, limiter, c'est un peu flou comme terme.
C'est ça le problème, et ce qui est encore plus flou, c'est que le gouvernement et le président parlent de cas par cas. Et là, on est extrêmement déçus, hein. Ils ont réaffirmé cette logique du cas par cas, donc on ne voit pas d'avancée là dans les annonces du président sur les aires marines protégées. Il y a des critères internationaux, ça veut dire que pour qu'une AMP soit considérée comme telle, on ne peut pas pratiquer le chalutage de fond. Le chalutage de fond est incompatible avec les aires marines protégées. Après, il y a des graduations quand on va vers la protection stricte, qui peut aller jusqu'à la protection intégrale. La protection stricte, c'est pas d'activité de pêche du tout, pour justement sanctuariser, afin que le poisson qui ne connaît pas à lui les limites de l'AMP puisse augmenter, que les ressources augmentent, y compris en dehors. En France, justement, le problème, c'est que ce n'est pas interdit de pêcher avec du chalutage de fond, notamment dans les aires marines protégées. C'est ça le problème, c'est qu'il faut que ça soit interdit. C'est un problème qui est assez récurrent. Alors la France, qui se veut exemplaire sur un ensemble de sujets, sur ce niveau-là, l'est pas du tout. Hein. On a par exemple entendu aujourd'hui, le Royaume-Uni va interdire le chalutage de fond dans 50% de ses aires marines protégées. Les pays importants, le pays co-hôte avec la France, le Costa Rica, est beaucoup plus avancé sur cette question-là. Donc sur la question de la protection et des niveaux de protection dans les aires marines protégées, non, on n'est pas très exemplaire en fait.
Comment vous l'expliquez ?
On l'explique probablement par un manque de volonté politique, par une proximité d'une partie du secteur. En fait, la pêche artisanale notamment est très mal représentée en France, et qu'il y a toujours cette logique un peu comme quand on se rend dans un affrontement entre les amis des pêcheurs et les amis des poissons, et que protéger les océans, c'est porter atteinte à la liberté de pêcher. Et en fait, il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les scientifiques le démontrent bien, en protégeant des aires protégées vraiment, finalement, on redonne de la ressource, on redonne de la possibilité à créer de l'emploi. Et puis l'autre chose, c'est la transformation d'un modèle industriel, d'un modèle qui repose sur le chahutage, extrêmement intensif en carburant. Il faut plus d'un litre de carburant pour pêcher un kilo de poisson, donc là aussi l'aberration. Là, une pêche artisanale, ça veut dire plus d'emplois, plus de travail dans les territoires, plus de débarquements. Donc il y a tout qui est gagné, et du point de vue environnemental et du point de vue social.
Voilà, François Chartier, chargé de campagne océan à Greenpeace France, avec Anne Cantner, depuis la conférence mondiale sur les océans à Nice. Cette question à présent, encore et encore, comment continuer à raconter ce qui se passe actuellement à Gaza? Alors qu'on le rappelle, la presse internationale est interdite d'accès à l'enclave palestinienne par Israël. La semaine dernière, ici même, on évoquait les initiatives d'envoi de cartes SIM, initiatives citoyennes, pour permettre aux Gazaouis de témoigner des horreurs qu'ils subissent. Gros plan ce soir sur un média qui détonne dans le paysage médiatique israélien, c'est le site d'information Plus 972, qui mêle une vingtaine de journalistes israéliens et palestiniens qui sont unis pour raconter au mieux l'actualité de cette terre qu'ils ont en partage. L'audience a été, depuis le début de la guerre, multipliée par 6, avec aujourd'hui 120 000 visites par mois environ. Alors à quoi ressemble le quotidien de cette rédaction mixte? Est-ce que c'est un laboratoire? Est-ce que c'est une utopie? Amira Souilem est allée à la rencontre des équipes en Israël, mais également en Cisjordanie occupée. Reportage.
Ce soir encore à Tel Aviv, des centaines d'Israéliens manifestent pour demander la fin de la guerre à Gaza. Des photos d'enfants gazaouis à la main, ils espèrent créer un électrochoc dans l'opinion publique. Dans la foule, caché derrière son objectif, Oren Ziv, journaliste israélien.
We had the chief of staff of the police.
La première semaine de guerre, juste après le 7 octobre, le chef de la police a dit aux manifestants que si certains voulaient manifester en solidarité avec Gaza, ils pouvaient affréter des bus pour les envoyer là-bas. C'est important d'être là parce que cette mobilisation vise à faire en sorte que les Israéliens réalisent ce qu'il se passe réellement à Gaza.
Oren Ziv travaille pour le site d'information Plus 972. Un clin d'œil à l'indicatif téléphonique d'Israël. Sa vocation est né pendant la seconde intifada au début des années 2000. Il cherche alors à comprendre pourquoi ses voisins jettent des pierres et s'engage dans une association israélo-palestinienne. L'engagement, c'est l'ADN de Plus 972. Ses locaux sont basés à Tel Aviv. Roussoun Bicharat en est la rédactrice en chef. Elle est palestinienne d'Israël.
Le génocide à Gaza et les atrocités du 7 octobre, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu autant de cruauté. On est tous encore traumatisés par ce qui se passe et on ne s'en remet toujours pas. Je crois que la seule solution, c'est d'avoir un État binational où Palestiniens comme Juifs israéliens vivent ensemble.
Le rêve de liberté pour tous semble bien loin pour le moment. À une centaine de kilomètres de là, en Cisjordanie occupée, Bessel Adra est l'un des reporters palestiniens du site d'information. En mars dernier, il a remporté à Hollywood l'Oscar du meilleur documentaire pour son film No Other Land. Il y racontait le quotidien de son village soumis à la violence des colons israéliens. Parce qu'il travaille avec des Israéliens, le jeune homme a essuyé des critiques de la part de certains de ses compatriotes. Il tente de passer outre ces remarques qu'il juge déconnectées des réalités et binaires.
Hier, des activistes israéliens ont reçu des coups de la part des colons et la police n'a rien fait pour les protéger alors qu'ils sont israéliens. Et ce type de militantisme qui tente de montrer la réalité, c'est important.
De Tel Aviv au village de Cisjordanie occupée, les membres de Plus 972 continuent de penser que le cycle de la violence et de l'injustice peut être rompu. Eux feront tout pour. Amira Souilem, Tel Aviv, RFI.
Et retour à Paris, bientôt 20h30, bientôt donc la première édition d'Afrique Soir. Sylvie Berru est déjà à mes côtés. Et puis n'oubliez pas votre session soirée de l'info. Elle se poursuit pendant 1h30 sur RFI. À suivre ensuite le décryptage et le grand reportage.
demain sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
En 2123, imaginez le monde. La Terre est invivable, l'espèce humaine a muté et s'est réfugiée sous les mers. Telle est la fiction science-fiction de Laure Limongi. Dans son roman « L'invention de la mer », l'héroïne est mi-femme, mi-poulpe et traduit les langues aquatiques.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h31 sur RFI.